Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio TerraZen. Nous sommes le jeudi 26 janvier 2017 et bonne année à toutes et à tous en premier lieu. Et vous écoutez la 12e émission de Histoire du soir avec Olivier Burette. Et ce soir, je vous propose une petite promenade autour du ce que l'on peut appeler quelque part le phénomène Da Vinci Code, hein, c'est-à-dire tout ce qui gravite autour à la fois du roman qu'a publié l'écrivain à succès Dan Brown, hein, et du film qui en est sorti, et surtout de tout l'univers, de tout cet univers historique. Qui gravite, ou pseudo-historique, en tout cas c'est ce qu'on va voir ce soir, qui gravite autour donc de cette histoire du Da Vinci Code. C'est ce que je me propose de faire avec vous pendant à peu près l'heure qui vient. Alors en premier lieu, il s'agit, hein, dans le cadre du Da Vinci Code, d'un roman à succès, hein, publié donc par l'auteur donc Dan Brown, best-seller, hein, dont on a ensuite tiré un film. Le livre est sorti en 2003. Et le film qui a suivi, réalisé par Ron Howard, dont on parlera dans un instant, est sorti en 2006. L'ouvrage a été titré à plus de 86 millions d'exemplaires, hein. Et le film donc a été quand même un succès, en tout cas un certain succès dans le domaine, et surtout, si je puis dire, dans le domaine de la résurgence, d'un goût en retour sur toutes les questions historico-ésotériques, si on peut dire. Alors, en premier lieu, et un simple rappel d'un cadrage historique, hein, d'un cadrage filmographique, cette histoire du Da Vinci Code se situe donc dans un cycle de films, hein. Il y a d'abord eu Da Vinci Code sorti, donc on l'a dit tout à l'heure, en 2006, et puis deux autres films qui ont suivi, hein. Ange et Démon en 2009, toujours tiré d'un roman de Dan Brown, hein, toujours réalisé par Ron Howard, qui parle d'une histoire de secte, à savoir les Illuminati, de secte apocalyptique qui tente d'anéantir le monde avec de l'antimatière. Et plus récemment, sorti l'année dernière, il n'y a pas très longtemps, en 2016, Inferno, hein, là, toujours réalisé par Ron Howard, et qui, est un roman, toujours tiré d'un roman de Dan Brown, et qui, cette fois-ci, parle d'une épidémie mortelle qui s'en va anéantir l'humanité, toujours dans des buts, évidemment, sectaires, voire extrêmement inquiétants. Alors, c'est dans ce cycle, hein, que se situe le Da Vinci Code, à la fois le roman et ensuite le film, puisque ces trois films dont je viens de parler, hein, 10 introductions, mettent en scène un personnage qui s'appelle le professeur Robert Langdon, hein, qui, d'ailleurs, Robert Langdon, qui est donc le personnage vraiment central, hein, des trois histoires, qui est un symbiologiste, hein, et qui se trouve, donc un spécialiste de symbolique, et qui se retrouve mêlé à des intrigues, évidemment, menaçant le monde. Alors, le Da Vinci Code, en fait, hein, donc, eh bien, va donc être une intrigue extrêmement intéressante, à la fois telle que soit que l'on parle du livre, hein, ou du film, puisque cela va convoquer, si on peut dire, face à l'imaginaire, hein, donc public, l'imaginaire, voire l'inconscient collectif, de grands thèmes transversaux d'une histoire, dirions-nous, qui mêle à la fois le Moyen-Âge et l'histoire, tout simplement, d'une certaine forme de mysticisme et d'une histoire parallèle, en fait, du dogme officiel de l'Église. On aura l'occasion largement d'y revenir. Alors, le film lui-même est sorti le 17 mai 2006, hein, un budget énorme, 66 millions de dollars, ce que cela raconte, tout simplement, bah, il s'agit, en fait, hein, d'une intrigue au départ policière, puisque cela nous convoque tout simplement un soir très tard dans une des galeries du musée du Louvre, hein, où le conservateur du Louvre, qui s'appelle Jacques Saunière, hein, on expliquera tout à l'heure pourquoi ce nom de Saunière, hein, précisément, eh bien, est poursuivi de nuit par un personnage sous cape, si on peut dire, une sorte de moine, un fanatique, on en parlera plus tard, qui s'appelle Silas, hein, et qui est chargé de lui extirper un secret. Jacques Saunière refuse de répondre, hein, et un peu plus tard, on le retrouve mort dans un dispositif très étrange, c'est-à-dire les bras et les jambes écartés, représentant donc justement le fameux homme de Vitruve, hein, de Léonard de Vinci, avec une énigme mystérieuse écrite, hein, que l'on retrouve tracée, PS, trouver Robert Langdon. Et Robert Langdon, bah, c'est ce symbiologiste, hein, donc qui est, si je puis dire, en train de faire à ce moment-là un cycle de conférences. Hein, on le voit, notamment, c'est filmé, en tout cas, c'est censé représenter l'école du Louvre, hein, où il fait une conférence évidemment sur la symbolique. Et puis on vient le chercher pour, tout simplement, la police vient le chercher pour, évidemment, identifier le corps, parce que la police a retrouvé sur le sol, hein, du cadavre de Saunière, avec cette disposition en croix mystérieuse, PS, message PS, trouvé Robert Langdon. Et c'est là que, Robert Langdon, évidemment, aide la police, se rend au Louvre, et il va rencontrer une jeune femme, jouée par Audrey Tautou, qui s'appelle Sophie Neveu dans l'histoire, et qui en fait va se révéler être la petite fille du conservateur assassiné. Et en fait, rapidement, Langdon va se retrouver embarqué dans une très étrange histoire. Très étrange histoire, hein, qui en fait va le mener, hein, dans une quête absolument faramineuse, hein, donc de ce que les concepteurs du film, scénaristes et comment dire, Dan Brown vont tout simplement qualifier comme étant donc la quête du Graal, et on apprendra rapidement que ce Graal n'est pas justement une comment dire, une coupe sacrée censée donner la félicité éternelle à qui en boit la coupe. On avait fait des émissions là-dessus, rappelez-vous, à partir de laquelle eh bien le sang du Christ, dans laquelle le sang du Christ aurait été récupéré, hein, promettant ainsi l'éternelle jeunesse à qui en boirait, hein, mais que justement il ne s'agit pas de ça, qu'il s'agit justement de bien d'autres choses, une histoire extrêmement profonde, hein, dont on va parler maintenant, et auquel nos personnages vont être mêlés pendant à peu près les 2 heures et quelques que dure le film, hein, une histoire très profonde, en fait, d'une lutte éternelle, hein, entre, d'une part, une organisation qui existe effectivement de l'Église qui s'appelle l'Opus Dei. Hein, tout le monde sait ce que c'est que l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, hein, cette organisation censée, comment dire, relevant uniquement du pape, hein, au niveau de l'autorité, est censée, comment dire, tout simplement assister, tout simplement à la promotion du dogme officiel, hein, catholique. Et puis, en parallèle, une organisation qui est originellement issue de l'ordre des Templiers, donc qui remonte comment dire, dans les entrailles même du plus profond Moyen-Âge, hein, que l'on appelle le prieuré de Sion. Et c'est là tout le sens de la fameuse comment dire, anecdote et de la phrase que l'on trouve, hein, près du cadavre de Saulnières, PS trouvé Robert Langdon, hein, prieuré de Sion. Alors, tout de suite, il faut comprendre que, puisque le but de cette émission n'est pas évidemment de dire, et cela serait vraiment pas mon ambition ce soir, que d'aller dire si tout cela est vrai ou pas, ou quelle est la part de réalité historique dans toute cette histoire, ça n'est pas là l'objectif, bien sûr. L'objectif est simplement ici de autour de toute cette mystique, hein, profonde du Da Vinci Code, d'essayer de retrouver des éléments, hein, de réalité historique, hein, qui ne seront peut-être pas, comme vous allez le voir ce soir, nécessairement ceux que l'on croit, précisément. Puisque Dan Brown, en fait, qui a, comment dire, produit là un roman de fiction, bien sûr, n'a pas hésité à emprunter à différentes sources plus ou moins controversées, historiques ou non d'ailleurs, mythiques, mystiques, hein, pour tout simplement confectionner son histoire. Hein, et nous allons évidemment le voir. On essaiera de voir d'une part, effectivement, ce qu'est ce fameux, ce qu'aurait été ce fameux prieuré Sion, a-t-il existé réellement? Ou n'est-il qu'une invention? On en parlera plus tard. Les différents lieux, la question également des lignées mérovingiennes, hein, qui nous intéresse ici, qui nous intéressera d'ailleurs dans la prochaine émission de février, puisque je vais en consacrer une entièrement au mystère, au supposé mystère lié à la dynastie des Mérovingiens, à ce qu'on appelle, et là, on fera une émission là-dessus avec Cédric, et c'est prévu dans les mois qui viennent, à la fameuse, ce qu'on appelle l'affaire Arène-le-Château, que beaucoup d'entre vous connaissent, à la question bien sûr aussi de l'ordre lui-même du temple, hein, de ce qu'il est, hein, la question également du Graal, de la quête du Graal, et qu'est-ce que c'est que la quête du Graal par rapport notamment à la question de Marie-Madeleine, hein, qui est donc cette femme que le Christ, hein, dans les évangiles, affranchit en quelque sorte de son rôle de prostituée, hein, et qui va devenir une des grandes promoteuses, hein, si on peut dire, du message de Jésus, hein, dans l'Ancien Testament. C'est de voir justement en quoi Marie-Madeleine, dans toute cette histoire, hein, est justement assimilée, hein, dans l'histoire du Da Vinci Code, et pas que là, dans d'autres histoires aussi, hein, au Saint Graal, c'est-à-dire au féminin sacré, hein, c'est le professeur Langdon lui-même qui l'explique dans le film, hein, et qu'en fait, toute cette histoire, en fait, tout ce fameux secret qui, comment dire, jonche toute l'histoire du Da Vinci Code, le secret en question, c'est tout simplement une histoire parallèle à celle du dogme officiel, hein, des évangiles, hein, parlant tout simplement de la vie du Christ. hein, de Jésus. Et ça, bien sûr, c'est le moteur même du film qui explique que, justement, l'objectif de cette organisation montrée comme dangereuse et, comment dire, représentant l'autorité vaticane, l'Opus Dei, eh bien, n'a qu'un seul et unique but, hein, c'est tout simplement d'empêcher que jamais on révèle justement ce dogme parallèle, hein, cette histoire parallèle, qu'on la révèle au grand public, parce que cela s'apprête 2000 ans à peu près de pouvoir, hein, tout simplement, du christianisme sur le monde, hein, ce qui est quand même bon, relativement considérable encore aujourd'hui. On se penchera aussi sur les sources, hein, de tout ça, parce que bon, c'est-à-dire où Langdon aurait pu tout imaginer, ou puiser dans des légendes, à la fois l'affaire à Neuchâteau, les légendes dites plantardiennes, etc., on y reviendra tout à l'heure, hein. Mais bon, il y a aussi, c'est vrai, les évangiles dits apocryphes, hein, qui vraiment donnent de l'eau à tourner au moulin, pour nous dire, de tout ce que je suis en train de vous dire en ce moment, même si c'est un peu compliqué, je vais tenter de l'expliquer, même si je pense aussi que les auditrices et auditeurs de cette émission connaissent déjà abondamment toute cette histoire. Également, bien sûr, on terminera avec, à coup sûr, et selon moi, selon des recherches personnelles cette fois-ci, deux témoins, voire trois peut-être, hein, qui existent quand même encore aujourd'hui, qui ne sont pas des falsifications, et qui tendraient quand même à prouver, hein, que, eh bien, justement, le fameux prieuré de Sion, hein, et toute cette histoire mérovingienne étrange, hein, que je vais essayer de vous expliquer ce soir, eh bien, aurait quand même quelques sources historiques qui sont véritables. Et c'est bien là, justement, l'aspect extrêmement particulier. Alors, reprenons un peu maintenant d'envol et de distance, hein, par rapport à toute cette histoire du Da Vinci Code. Hein. Donc, tout simplement, le Da Vinci Code raconte, hein, comment, tout simplement, au travers, hein, de l'étude, hein, d'un tableau de Léonard de Vinci, tableau qui s'appelle La Scène, hein, eh bien, on comprend que, en effet, le fameux secret, le fameux mystère protégé par le prieuré de Sion, ce mystère que n'a pas voulu révéler le fameux conservateur du Louvre, Jacques Saunière, hein, eh bien, réside dans le fait, effectivement, de la véritable identité, hein, de Marie-Madeleine, hein, qui aurait été bien plus qu'une sainte, évidemment, du Nouveau Testament, mais tout simplement un personnage qui aurait été Marie-Madeleine, la compagne du Christ, hein, tout simplement, et surtout la promoteuse, hein, si on peut dire promoteuse, celle qui a fait la promotion, hein, d'une évangile parallèle, hein, qui n'avait rien à voir avec cet évangile de pouvoir, hein, qui pendant plus d'un millénaire, hein, a caractérisé l'Église, donc catholique à travers en tout cas le monde occidental, c'est absolument certain. Bien sûr, Robert Langdon, Sophie Neveu vont partir eux aussi dans la quête, poursuivis par la police, poursuivis par l'Opus Dei, qui veut bien sûr connaître le secret, savoir où se trouverait l'artefact, évidemment, c'est-à-dire le cadavre ou la momie de Marie-Madeleine pour la détruire, pour tout simplement empêcher de révéler au monde toute cette histoire. Et puis l'histoire finit un peu en nœud de boudin ou en queue de poisson, si on peut dire, puisque à la fin, finalement, eh bien, Langdon et Sophie Neveu comprennent que tout simplement, ils ne pourront jamais trouver la preuve de cette existence, de cet artefact prouvant, hein, cette histoire parallèle, parce que tout simplement, la conclusion de tout ça, c'est qu'on est dans le domaine de la foi, hein, et qu'il s'agirait peut-être effectivement de convertir, hein, à ce moment-là l'humanité tout entière dans une foi d'amour, hein, pour peut-être rénover ce fameux dogme. Donc voilà un peu ce que raconte toute cette histoire, et point par point, on peut en effet se pencher sur différents aspects, surtout sur le plan historique. Premièrement, hein, ce qui intrigue l'historien dans toute cette histoire, c'est cette fameuse société secrète que l'on appelle le prieuré de Sion. Alors le prieuré de Sion, bah, qu'est-ce que c'est? Alors on le connaît, le prieuré de Sion, à cause de l'affaire dite de Rennes-le-Château, d'abord, puisque tout simplement, l'affaire de Rennes-le-Château, mais je passe très vite puisqu'il y aura une émission là-dessus, et je n'en suis pas spécialiste, je le précise tout de suite. Et je prie donc les auditrices de m'excuser, hein, si, bien sûr, je ne me donne pas nécessairement une image ni rénover ni savante, puisque ce n'est pas mon but ici. Cette affaire de Rennes-le-Château, bah, tout simplement, est une histoire de dire que bah, justement, voilà, un beau jour, un prêtre prenant possession de sa paroisse, nous sommes donc vers la fin du 19e siècle, qui s'appelle l'abbé Béranger-Saunière, justement, c'est bien pour ça que Dan Brown joue encore une fois sur les sources, hein, en parlant d'un Jacques Saunière comme conservateur du Louvre. Il réutilise le mot de Saunière, même si ça n'a rien à voir. Eh bien, ce prêtre va mettre la main sur un fabuleux trésor. Hein, et ce fabuleux trésor, hein, eh bien, aurait été tout simplement notamment d'expliquer qu'il y avait une lignée sacrée qui a été préservée des derniers rois mérovingiens, dont on parlera tout à l'heure, et que cette lignée sacrée, eh bien, que ces mérovingiens, d'une part, auraient des origines qui les feraient remonter directement au Christ, d'une part, bon, ce qui, dans la mythologie, entre guillemets, des monarchies naissantes du haut Moyen-Âge, s'explique tout à fait, hein, puisque on sait très bien que, par exemple, les Bourbons, hein, se faisaient des généalogies remontant jusque à la légende troyenne, hein, c'est-à-dire jusqu'à la légende homérique, hein, jusqu'à Homère, hein, l'Iliade. Hein. Donc, bon, pourquoi pas, effectivement, imaginer cela. Hein. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, si on peut dire, eh bien, un certain Plantard, hein, donc lui, aurait, se serait réclamé comme étant le dernier descendant des Mérovingiens, pour ensuite, évidemment, mettre en place toute cette vaste opération autour de Rennes-le-Château que la plupart d'entre vous connaissent et sur laquelle on aura l'occasion de reparler plus tard. Hein. Alors, Pierre Plantard, je précise. Alors, je vous rappelle également que dans le cadre de cette émission, vous pouvez poser vos questions en direct, mais je n'en vois pas pour l'instant qui apparaissent, ni par SMS non plus. Donc, je poursuis, hein, bien sûr. Le prieuré de Sion, hein, voilà à peu près comment on le situe. Alors, ce prieuré de Sion, qu'est-ce que ce serait ? Alors, d'une part, il aurait été fondé, hein, en 1099, hein, c'est-à-dire au moment 1099, pour celles et ceux qui connaissent un peu l'histoire des croisades, bah, c'est le moment où, en effet, les croisés, hein, vont tout simplement, à l'issue de la proclamation de la première croisade, hein, donc vous vous souvenez de toute cette histoire, on a déjà parlé plein de fois, eh bien, libérer, entre guillemets, les lieux saints et donc s'emparer de Jérusalem. À partir de là, c'est là que, effectivement, certaines sources revendiquent comme étant la création du prieuré de Sion, ce qui est déjà extrêmement intéressant, car on détermine toujours le prieuré de Sion par rapport aux Templiers. Or, les Templiers sont fondés officiellement le 13 janvier 1129, hein, c'est-à-dire quand même donc 30 ans plus tard. Hein. Mais néanmoins, cette organisation mystérieuse, ce prieuré de Sion, aurait eu comme objectif principal, hein, au moment de la création de la du royaume de Jérusalem, hein, chrétien de Jérusalem, eh bien, de chercher justement ce fameux artefact, hein, nous y revoilà, hein, prouvant justement que cette histoire complètement parallèle, hein, du dogme officiel de l'Église catholique concernant Jésus. Il l'aurait trouvé néanmoins qu'il se fonde, si on peut dire, dans la création de l'ordre du Temple, hein, en 129, c'est Godefroy de Bouillon, hein, qui fonde, a priori, le prieuré de Sion, qui en sera le premier grand maître, hein, c'est-à-dire le premier, alors dans le cadre du prieuré de Sion, hein, ce ne sont pas des grands maîtres, mais des notonniers, hein, que ça s'appelle, hein, qui portent le nom de Jean à chaque fois. On serait à l'heure actuelle 23, 24, 25, à peu près sous Jean 26, hein, si toutefois cette organisation du prieuré de Sion existe réellement, ce que je suis bien incapable de vous prouver, bien sûr, ce soir, vous l'avez bien compris. Il se fonde hein, dans l'ordre du Temple, et en 1188, pour une raison relativement peu claire, hein, le prieuré de Sion se sépare de l'ordre du Temple. Hein. L'ordre du Temple qui, comme vous le savez, va disparaître, hein, peu de temps après, au début du XIVe siècle. Hein. Et le prieuré de Sion, donc, qui va ensuite continuer son itinéraire, hein, tout simplement, dont le but principal sera, hein, et même bien au-delà des croisades, hein, tout simplement de protéger le fameux secret dont je viens de vous parler, c'est-à-dire l'artefact, hein, la preuve, comme quoi, effectivement, c'est pas du tout l'histoire officielle, hein, de l'Église catholique que l'on connaît, hein, mais il y a bien une histoire de descendance, de filiation christique, mystique, hein, probablement rattaché ensuite dans le très haut Moyen Âge avec la première dynastie qui a tout simplement architecturé, si on peut dire, ce qui sera la France plus tard, le royaume de France plus tard, hein, c'est-à-dire évidemment le royaume des Francs, hein, avec les Mérovingiens. Alors, autre détail qui nous renvoie à un autre lieu dans toute cette histoire, qui est Gisors. Gisors, c'est quoi? C'est cette grande forteresse du Vexin, hein, qui à la fois mettait avant, autrefois, la frontière entre le royaume de France, hein, et les possessions du royaume d'Angleterre, hein, qui, comme vous le savez, évidemment, taillait largement des croupières à notre territoire actuel national. Hein, et c'est à Gisors, donc en 1188, qu'aurait eu lieu la fameuse scission, hein, entre le prieuré de Sion et l'ordre du Temple. On aurait scié un orme. Hein. L'orme, vous savez, chers amis, c'est l'arbre tutélaire, hein, de l'ordre du Temple. Hein. Et cet orme aurait donc été scié en deux, pour marquer justement cette division. Alors, petit détail, parce que dans toute cette histoire que je vous raconte, qui n'est pas forcément un conte, hein, on verra à la fin, à dormir debout, hein, enfin j'espère que non, c'est que justement, l'orme, en effet, c'est vrai, est vraiment l'arbre tutélaire, effectivement, de l'ordre du Temple. C'est un symbole. Hein. Et c'est tant un symbole que si, et voilà justement quand même quelques détails qui prouvent qu'il y a des choses de vraies dans tout ça, hein. Si vous vous promenez aujourd'hui derrière la mairie de Paris, hein, simplement, là, vers la rue de Rivoli, hein, en plein cœur du Paris historique, hein, rive droite, et que vous vous trouvez sur le parvis de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, hein, qui est une très grande église du centre de Paris, hein, eh bien, cette église, vous devez savoir, a été construite tout simplement sur des terres que les Templiers avaient cédées, hein, au Moyen-Âge, à l'église. Hein, bon là, jusque-là, rien d'anormal, puisque bien sûr l'enclos du Temple à Paris, hein, qui aujourd'hui se situe derrière la place de la République, mais bien sûr il n'y a plus rien, hein, tout cela a complètement disparu, hein, c'est dans le quartier du Marais à l'heure actuelle, quartier que je vous invite à visiter, tant il a quand même une atmosphère mystérieuse, hein, parfois, eh bien, devant le parvis de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, hein, la mairie de Paris a replanté un petit arbre, hein, qui d'ailleurs aujourd'hui a dû grandir un peu, mais enfin qui est quand même tout petit, puisqu'il a été planté il y a pas longtemps, c'est un orme. Ce n'est pas du tout un hasard, bien sûr, puisqu'il s'agit, hein, effectivement, vous pouvez vérifier, il y a une étiquette, de cet arbre, expliquant donc que simplement c'est, on a planté un orme, hein, parce que c'est un rappel historique à cette symbolique-là. Alors, 1188, l'ordre donc du Temple se sépare du prieuré de Sion, l'ordre du Temple va décliner, les croisades sont perdues, la Terre Sainte, hein, dite Terre Sainte en tout cas, les royaumes latins ne vont pas exister très longtemps, le dernier refuge, rappelons-le, c'est quand même intéressant sur le plan culturel, des derniers bastions de la chevalerie occidentale et de cette aventure orientale, chevaleresque, pourrions-nous dire, va se situer dans l'île de Chypre. Je vous rappelle que Chypre, à l'heure actuelle, est une île où, précisément, et vous seriez surpris de l'apprendre si vous y rendiez, ou de le voir, se trouvent effectivement des ruines de cathédrales gothiques, de monastères gothiques, d'une cathédrale notamment qui ressemble à s'y méprendre, hein, à la cathédrale de Reims, bah oui, parce qu'il y a eu toute une historicité, hein, de cette île. C'était la dynastie des Lusignans, hein, c'était le bastion, hein, le relais technique, hein, et le relais surtout géostratégique, hein, de la chevalerie, hein, donc qui partait à la croisade à cette époque-là, hein, tant à la fois dans le mouvement expansionniste, hein, de la création des royaumes latins, hein, au XIe siècle, que dans leur reflux, hein, deux, trois siècles plus tard. Donc c'est assez intéressant de le mentionner. Toujours est-il que, eh bien, effectivement, le prieuré de Sion, lui, va subsister, subsister bien après, hein, et au travers, alors en effet, d'une généalogie, alors elle est évoquée évidemment abondamment hein, dans le Da Vinci Code, hein, d'une généalogie de Nothonier, hein, les fameux grands maîtres du prieuré de Sion, qui vont, au travers de l'histoire, hein, se succéder en gardant, en ayant pour charge principale de garder le fameux secret, hein, ce secret dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parmi tous ces personnages qui jonchent toute l'histoire jusqu'à nos jours, hein, puisqu'actuellement le prieuré existerait toujours, hein, d'après ce que l'on, en tout cas ce que prétendent certaines sources, hein, on va retrouver des gens comme Jean de Gisors, comme par hasard, effectivement, Gisors a un rôle important. Vous savez que Gisors, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, fait partie de ces villes, et surtout est un lieu où, en principe, on aurait, serait conservé de façon mystérieuse dans une chapelle souterraine, hein, sous le donjon du château de Gisors, le fameux trésor des Templiers, qui aurait, fui Paris au début du XIVe siècle, en 1307, juste la veille, de leur arrestation. Et vous le savez, c'est toute l'histoire des Templiers sont parmi nous, de Gérard de Sède, que j'ai mis en photographie, en préparation de cette émission, en bibliographie, on l'évoquera tout à l'heure aussi, et qui explique effectivement que, un certain jardinier du nom de Lomois, hein, après 1945, aurait trouvé une chapelle souterraine, hein, avec le fameux trésor des Templiers, mystère total, il n'y a jamais eu de fouille dans cette chapelle, c'est une histoire très trouble, très compliquée, et extrêmement trouble, on n'en a aucune trace, encore faudrait-il savoir ce que, si les Templiers avaient d'une part un trésor, et deux, de quelle nature pouvait-il bien être. Alors donc on trouve cela dans le Haut Moyen-Âge, on trouve des personnages comme Nicolas Flamel, évidemment l'alchimiste du XIVe siècle, on trouve des personnages évidemment comme Léonard de Vinci, bien sûr, donc Léonard de Vinci, hein, vous savez, cet artiste de la Renaissance, scientifique, cerveau complet, pour nous dire, du début du XVIe siècle, qui avait tout inventé, hein, et qui aurait, dans sa peinture, notamment la scène, transféré, comme on l'a bien compris au travers du film, j'expliquais tout à l'heure, la fameuse scène, justement, c'est là la représentation de la scène, hein, qui montre effectivement que entre le personnage central du Christ en train de partager le pain lors du dernier repas, hein, et à gauche Saint Paul, en fait c'est pas Saint Paul, dans le film on vous explique que en fait c'est tout simplement Marie-Madeleine, et qu'il se forme une espèce de V entre le Christ et Saint Paul, ou Marie-Madeleine, et qui bien sûr représente quoi, hein, qu'est-ce que c'est qu'un V ouvert, hein, si ce n'est bien sûr le symbole du féminin sacré, et donc le Graal. Hein, le Graal, le fameux secret, c'est-à-dire que eh bien, Marie-Madeleine et le Christ, évidemment, étaient unis, hein, et ont eu une descendance. Hein. Voilà toute l'histoire de ce secret qui jonche, hein, toute l'histoire du Da Vinci Code. Alors d'autres personnages, jonchent cette histoire des Nothonniers du prieuré. On y retrouve Isaac Newton, dont il est question d'ailleurs dans le film, hein, je vous le rappelle, dans le roman aussi, hein, Newton qui évidemment est une des clés, hein, on s'en souviendra de l'histoire du Da Vinci Code. Et puis plus près de nous, et là c'est quand même extrêmement intéressant, il y a l'ésotériste Charles Naudier au début du 19e siècle, il y a Victor Hugo. Hein. Victor Hugo, qui est Nothonnier du prieuré de Sion de 1844 à 1885, quand on lit certaines pages, hein, comme moi je l'ai fait en le reprenant, m'intéressant à cette histoire de Notre-Dame de Paris, hein, Victor Hugo, c'est un merveilleux roman extraordinaire. Et on sait très bien que Hugo a distillé, hein, dans ce roman tout un tas de connaissances tout à fait perdues aujourd'hui, hein, de l'histoire de Paris. Je vous recommande encore de lire, de relire les pages de le chapitre qui s'appelle Paris à vol d'oiseau, hein, où effectivement Hugo nous montre le Paris du 15e siècle, du début du 15e siècle, de la fin du 14e siècle, donc justement ce Paris médiéval disparu. Hein, avec tout un tas de trésors. Je vous renvoie aussi à l'affaire du portail disparu, hein, de Notre-Dame, hein, qui comportait un corbeau. Hein. Puisque bien sûr, dans toute cette histoire-là, la toile de fond de l'alchimisme médiéval, qui n'est pas que la recherche de la pierre philosophale, mais bien sûr une question de réflexion philosophique, hein, sur la question alchimique elle-même, est évidemment très profonde. On retrouve aussi Debussy, bien sûr, le musicien, dont la musique effectivement peut bien nous faire croire que y a là-dedans des clés tout à fait étonnantes. Cocteau, hein, bien sûr, Jean Cocteau, nautonnier en principe de 1918 à 1963, sa mort. Hein. Cocteau, dont l'ensemble de l'œuvre, hein, je ne vous renverrai que au fameux, à la fameuse, comment dire, au testament d'Orphée. Au film Orphée et au film Testament d'Orphée, avec la fameuse histoire des miroirs qui sont traversés, etc., où on retrouve là évidemment une dimension mystique tout à fait profonde. Alors est-elle liée au prieur, à d'éventuels prieurs de Sion ou pas? Mystère. N'empêche que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et notre fameux Pierre Plantard, dit de Saint-Clair, hein, qui lui avait rattaché tout ça à sa propre légende, hein, de se dire voilà qu'il était un descendant des Mérovingiens, hein, qui lui-même a été nautonnier de 81 à 84. Donc tout cela, évidemment, est une histoire extrêmement complexe et sans doute une histoire en toile de fond du Da Vinci Code, et c'est ça qui est quand même extrêmement intéressant, une histoire qui, évidemment, comment dire, est tout à fait captivante parce que, encore une fois, et j'insisterai là-dessus en vous quittant tout à l'heure, comporte néanmoins des éléments historiques qui sont indubitables. Qui existe. Alors après, est-ce une instrumentalisation, est-ce un tricotage à la faveur de la, comment dire, de la mystique voulue par un homme chargé comment dire, de se valoriser lui-même, bien que dans la fameuse affaire de Pierre Plantard, mais là, ce sont des thématiques qu'on abordera plus tard, je ne développe pas, mais on peut se demander aussi à qui profite le crime, c'est-à-dire que, bon, quelque part, à quoi bon inventer toute cette histoire pour un personnage qui, n'en a pas tiré manifestement une gloire absolument immense. Donc on se demande un peu à quoi ça sert. Et n'y a-t-il pas dans tout cela, n'y aurait-il pas, hein, une histoire parallèle, hein, récupérée peut-être par des aventuriers comme Plantard, mais une histoire parallèle qui aurait effectivement eh bien, quelques éléments de vérité. Et moi, en tout cas, c'est en cela que je suis rentré dans comme beaucoup de monde d'ailleurs à cette époque-là, à cause de ce film et de ce roman, dans cette histoire-là. Hein, et que j'avoue que quand on est historien, on est fortement intéressé parce qu'on cherche évidemment à trier le vrai du faux, hein, si on peut dire, dans tout cela. Alors, on l'a dit tout à l'heure, bien sûr. Le Da Vinci Code emprunte beaucoup à l'affaire Rennes-le-Château, surtout en y faisant des clins d'œil. Il y en a un dans le film que j'aime bien évoquer parce qu'il n'est pas nécessairement connu. C'est à un moment donné, on sert une bouteille de vin entre deux ecclésiastiques de l'Opus Dei, et le vin en question a une étiquette. Hein, et sur cette étiquette, bah, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit la fameuse Tour Magdala, hein, qui fait partie des monuments mystérieux construits par le fameux abbé Béranger Saunière à Rennes-le-Château. Donc évidemment, il s'agit comment dire, d'un clin d'œil. Il y en a un autre à une des sources principales du roman d'ailleurs que l'on en voit donc et qui comment dire fait référence hein, au fameux livre L'énigme sacrée hein, dont on parlera tout à l'heure donc les aspects bibliographiques donc avec le fameux ésotériste que rencontrent Langdon et Sophie Neveu et qui va les guider justement sur la voie de la fameuse du fameux code ou du fameux la fameuse révélation faite par Léonard de Vinci, c'est Lee Teabing. Hein, parce qu'il emprunte à la fois à Richard Lee, hein, qui comment dire, est un des auteurs de l'Énigme sacrée, et à Michael Begant, hein, également. Hein. Et puis, bien sûr, d'autres clins d'œil hein, qui jonchent toute cette histoire. Puis il y en a un autre, bien sûr, là, celui-là, il est de taille, parce que forcément, il a comment dire, comme toile de fond, précisément, et on y reviendra plus tard, hein, c'est ce que j'appelle l'autre bout de l'histoire de ce fameux secret. La base de cette histoire, c'est Jésus-Marie-Madeleine, hein, on a bien compris, l'artefact, hein, où se trouverait la momie ou les restes de Marie-Madeleine, Hein, on verra tout à l'heure justement peut-être où ça se trouve, précisément dans un lieu particulier en Écosse, on aura l'occasion d'y revenir. Hein. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, bah, c'est justement les fameux Mérovingiens, hein, qui auraient carrément comme origine, en effet, hein, une descendance remontant tout simplement au Christ, hein, donc se rendant vraiment particulièrement sacré. Cette dynastie, je vous rappelle quand même que la monarchie absolue est quand même inventée par Louis XIII et Louis XIV, mais que néanmoins, vous vous souvenez de la question des rois thaumaturges, hein, de la question tout simplement du baptême de Clovis, hein, de la Sainte-Ampoule et de la cathédrale de Reims, hein, et que la monarchie en France est considérée comme sacrée depuis toujours, depuis Clovis, hein, donc effectivement depuis les Mérovingiens. Hein, et monarchie sacrée, c'est-à-dire que le Christ, le roi, hein, lui-même est le représentant de Dieu sur terre, hein, reçoit l'onction du Christ par la sainte huile, hein, une huile qui apparaît miraculeusement. Tout ça, c'est ce qu'on raconte, hein, dans cette mystique, hein, le mystique de pouvoir, bien sûr, j'avais dit que c'était vrai, hein, il ne s'agit pas de là d'aller voir ce qui reste de la sainte ampoule à Reims, hein, vous serez sans doute déçus, hein, mais néanmoins, c'est de cela, hein, que procède, hein, toute la mystique, hein, fondatrice, si on peut dire, hein, de la monarchie, hein, et de l'autorité du monarque, hein, représentant de Dieu sur terre, c'est quand même le fer. Hein, bon. Alors, tout ça nous amène, évidemment, tout simplement à l'origine de tout ça, parce qu'en 410, hein, 5e siècle de notre ère, Rome, hein, comme vous le savez, subit son premier sac, hein, avec Alaric, hein, ce roi wisigoth qui va piller notamment le fameux temple de Saturne, hein, sur le forum romain, temple de Saturne, qui possédait, hein, les trésors de Rome depuis la République. Et notamment, bien sûr, on le sait, hein, le fameux trésor du grand temple de Jérusalem, hein, pillé par Titus, hein, au début de l'ère chrétienne. Et donc, évidemment, le Saint Graal, la fameuse, comment dire, la lampe sacrée, la menorah, et tout un tas d'objets mystiques mystérieux, hein, en or massif, que les Visigoths, en 410, hein, c'est-à-dire plusieurs siècles plus tard, auraient tout simplement récupéré et emmené avec eux, hein, devinez où, hein, et bien au cœur du royaume visigothique, c'est-à-dire dans une région proche de, je vous le donne en mille, Rennes-le-Château, bien sûr. Alors voilà déjà une part de cette histoire. Deuxième part, c'est 476, c'est la chute définitive de Rome, hein, avec donc Odoacre, hein, qui va, donc roi des Hérules, hein, qui expulse le dernier empereur, hein, Romulus Augustule. Hein, et on sait très bien qu'à cette époque-là, bah, définitivement, l'autorité, hein, l'auctoritas de l'empereur, hein, n'est plus en Occident, mais définitivement dans l'Empire d'Orient, c'est-à-dire l'Empire byzantin, hein, c'est-à-dire ce qui sera plus tard l'Empire romain d'Orient. Je n'y reviens pas, c'est une toute autre histoire. Et c'est pour ça que je cite ces dates-là vraiment de façon très précise, parce que tout simplement, bah, les Mérovingiens, hein, nos fameux Mérovingiens, nos fameux rois francs, hein, apparaissent au même moment, hein, c'est-à-dire entre 410 et 476, puisque le premier, hein, Clovis, le fameux baptême de Clovis, hein, sera le premier roi mérovingien de 466 à 511. Hein, c'est le début de la monarchie franque. Et tout ça va durer, hein, tout simplement pendant toute la période de la dynastie des Mérovingiens, hein, c'est-à-dire, hein, de 466, hein, donc même avant même la chute définitive de l'Empire romain, hein, jusque en 743, hein, c'est-à-dire la moitié du 8e siècle, hein, période où effectivement les Mérovingiens s'éteindront définitivement pour laisser la place à la dynastie suivante que tout le monde connaît, hein, qui est celle des Carolingiens, hein, c'est-à-dire celle de l'empire de Charlemagne. Hein. Charlemagne, tous les bambins, encore j'espère, connaissent cette date, hein, de son couronnement en tant qu'empereur en l'an 800. Hein. Vous savez bien, hein, cette date. Hein. La monarchie, l'empire carolingien, qui va durer donc de la moitié du 9e siècle jusque donc la fin du 10e siècle. Voilà. Alors, là-dedans, dans tout ce fatras, si on peut dire, historique, qui est quand même assez conséquent, on n'a pas beaucoup de sources, mais on a quand même des éléments, c'est quand même la dynastie des rois mérovingiens, dont évidemment tout le monde connaît le plus célèbre d'entre eux, qui est le roi Dagobert, hein, hein, celui qui a mis sa culotte à l'envers, etc., des rois qu'on a brocardés dans l'histoire, notamment même par les historiens de l'Empire carolingien qui ont transformé la période mérovingienne en une période de décadence. Hein. C'est la fameuse histoire des rois fainéants, les rois qui faisaient rien, etc., etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout non pas Dagobert Ier, mais le suivant, qui est Dagobert II. Hein. Dagobert II, dont les dates sont de 652, date de naissance, au 23 décembre 679, date de sa mort. Dagobert II, dont les dates de règne sont toutes petites, 676 et 679. Et il nous intéresse parce que justement, il se rattache à toute l'histoire que je vous ai racontée, toute cette mystique que je vous ai racontée depuis tout à l'heure. Parce que Dagobert II, tout simplement, eh bien, qui meurt donc assassiné, hein, le 23 décembre 1979, on en a fait un saint, on ne sait pas trop pourquoi, mais toujours est-il que il est assassiné dans la forêt de la Vouivre, et que en 679, la mort de Dagobert II, chez un certain nombre d'historiens, représente en fait le début vraiment de la fin des vrais rois mérovingiens. Hein. Après, ce sont des usurpateurs, dit-on, et ensuite, après, bah, c'est la dynastie des Carolingiens. Et voilà justement que bah, Dagobert II aurait laissé un héritier, ne serait pas mort du tout sans héritier, hein, et il aurait laissé un héritier du nom de Sigisbert, hein, parce que le grand-père de Dagobert II s'appelait Sigisbert III, hein, et tout simplement, là, il s'agit de Sigisbert IV, un enfant qui aurait été protégé, qu'on aurait sauvé, et qui aurait été emmené dans le sud de la France, dans la région des Pyrénées, et je vous le donne encore une fois en mille, dans quelle région? Ben, évidemment, dans la région de Rennes-le-Château, dans le Razès. Et ce Sigisbert IV, donc, aurait vécu là-bas, aurait fait souge dans la région, aurait eu plein de descendants, hein, et donc il aurait été surnommé le Plantard, c'est-à-dire, vous avez compris, suivez mon regard, le rejeton ardent. Alors, tout ça, c'est l'histoire. Hein. C'est l'histoire aussi qui est conservée, histoire secrète, qui aurait été conservée par le prieuré de Sion, bien sûr. Et ce fameux Plantard, vous avez bien compris, notre ami Pierre Plantard du XXe siècle rattache directement son nom à cette descendance. Hein. Cela dit, je ne crois pas qu'on connaisse d'activité monarchiste ou putschiste, hein, de la part de Pierre Plantard, qui a quand même traversé la Seconde Guerre mondiale, qui aurait pu à la rigueur intriguer dans les milieux monarchistes, hein, autour du comte de Paris. On sait bien qu'il y a eu des complots dans les périodes assez troubles à cette époque-là. Rien de tout cela. Donc, bon, pourquoi pas, mais des thèses qu'un imaginaire. Allez donc savoir, n'empêche que c'est quand même assez intéressant de le mentionner parce que cela procède justement aussi hein, de toute cette histoire complètement mystique. Parallèlement à tout cela, et toujours en fil rouge hein, de notre histoire, eh bien, bien sûr, il y a la question du trésor des Templiers, du trésor des Cathares, parce que, évidemment, le trésor des Templiers nous renvoie à Gisors, mais le trésor des Cathares, vous savez bien, c'est la croisade contre les Albigeois, c'est donc le XIIIe siècle, c'est un siècle avant. Les fameux Cathares qui auraient été, bien sûr, peut-être aidés par des Templiers à l'époque pour protéger leur trésor. Hein, fameux trésor, donc évidemment, de Montségur, hein, toute cette histoire, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, qui évidemment serait justement le fameux trésor des Visigoths, qui sera en même temps aussi le trésor de la Bessonnière, puisque tout ça se rattache en fait donc à des caches visigothiques mystérieuses qui seraient dans la région, qui, jusqu'à le moment où je vous parle, mes chers amis, n'ont toujours pas été retrouvés. Mais peut-être est-ce un dépôt archéologique majeur hein, qui révolutionnerait s'il était retrouvé. C'est ce que disent certains analystes, que la découverte de ce dépôt aurait, s'il était identifié et retrouvé officiellement, peut-être le même impact, par exemple, que la découverte de la tombe, hein, vous le savez, dans les années 30, hein, donc égyptienne. Hein, non pas de Ramsès II, mais de Toutankhamon, hein, vous savez, par donc les archéologues britanniques hein, donc de l'époque. Ce serait évidemment un événement majeur, mais pour l'instant, cela n'a pas eu lieu. Puis alors, bon, on va maintenant qu'on se dirige vers les 10 dernières minutes de notre émission, nous tourner hein, vers tout simplement les origines, hein, peut-être. De tout cela, hein, c'est-à-dire bah, tout simplement ce qui serait comment dire, les sources, hein, puisque tout ça n'a pas quand même été imaginé hein, par des gens comment dire, auraient voulu monter je ne sais quelle comment dire, mystique, une histoire mystérieuse. Alors ces sources sont évidemment, je l'ai dit plusieurs fois, les évangiles apocryphes, l'évangile de Philippe, hein, tous ces textes post, comment dire, bibliques que l'on a retrouvés, hein, donc dans les périodes relativement récentes, hein, traduites. Bon, il y a bien sûr les manuscrits de la Mer Morte, hein, tout le monde le sait, Qumran, etc. Et puis là aussi, bien sûr, comment dire, des évangiles apocryphes, l'évangile de Philippe, l'évangile de Judas, hein, qui racontent et qui tendent toutes, hein, vers l'histoire parallèle que je vous ai racontée. Alors, peut-être bien que, en effet, hein, on n'est pas nécessairement, hein, dans toute cette histoire, dans des choses qui seraient de la pure imagination. D'autres éléments, alors la réaction de l'Église, quand même, par rapport à tout ça. La réaction de l'Église, ça va être de condamner de manière formelle, mais pas forcément trop violente, parce que, afin de ne pas transformer en martyr, si on peut dire, comment dire, toutes ces révélations, hein, mais l'histoire de l'Église qui donc se sent un peu dépassée au départ, hein, mais qui, notamment le cardinal Tarcisio Bertone, hein, conseille fermement en mars 2005 sur Radio Vatican aux fidèles de ne pas lire ni acheter le roman du Da Vinci Code. Hein. Le Vatican lui-même n'a pas interdit le livre, hein, mais disons que il est considéré évidemment comme une hérésie, hein, comme quelque chose qui est évidemment faux. On dirait qu'on aurait peut-être été brûlé en place publique à une autre époque. Bon, ça n'est fort heureusement pas le cas, hein, mais disons que évidemment l'Église ne peut pas souscrire à tout cela. Dans la réalité, l'Opus Dei n'est évidemment pas cette organisation paramilitaire menaçante dont parle Dan Brown, même dans ses autres romans, les Illuminati, on sait très bien ce qu'il en est, en tout cas en ce qui concerne de preuves de leur existence. Mais moi, néanmoins, en bon historien, si je puis dire, enfin, j'aimerais quand même attirer votre attention sur deux, voire trois choses pour conclure. Hein. Ce sont quand même des faits, des choses qui sont indubitables. Bon, il y en a une en marge, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps, hein, mais c'est bien sûr le fameux tableau, vous savez, des bergers d'Arcadie, peint par Nicolas Poussin, hein, au XVIIe siècle, hein, Et in Arcadia ego. Hein, vous avez tous en tête ces bergers qui se penchent vers un tombeau mystérieux. Hein, et alors ce tombeau mystérieux, évidemment, c'est encore le tombeau du Christ et de Marie-Madeleine, ou des choses comme ça, on n'en sait rien. Mais les gens ont fait beaucoup d'analyses, les spécialistes ont fait beaucoup d'analyses pour expliquer que la peinture, c'est-à-dire le fond du tableau, hein, représente à s'y méprendre un paysage bien précis de la région de Rennes-le-Château, encore une fois, c'est-à-dire du Razès. Donc il y a bien quelque chose. Hein. Et là, Plantard n'existait pas, hein, à cette époque-là, c'est pas lui qui a peint le tableau de Poussin. Bon. Donc il y a bien quelque chose dans cette région. Et ça, déjà, c'est un fait indubitable. Bon. Après, qu'ils soient instrumentalisés, c'est autre chose. Mais n'empêche que les éléments historiques, hein, dans toute cette histoire que je vous ai racontée, que j'ai tenté de vous raconter, en quelques quarts d'heure, là, hein, et on y reviendra, en tout cas, je l'espère, il y a des éléments transversaux historiques qui, moi, m'intéressent beaucoup. Hein, parce que, justement, cela montre qu'il ne s'agit pas d'une aventure purement imaginaire, hein, tout cela. Le deuxième que je voulais évoquer, et qui est fort intéressant, mais il se situe au cœur même de Rome et du Vatican. Place Saint-Pierre. Place Saint-Pierre, vous savez que le Vatican, la basilique du Vatican, hein, qui existait depuis au moins le IVe siècle, hein, pas celle qu'on voit aujourd'hui, bien sûr, mais il y avait là déjà une basilique. Pourquoi? Ah, parce que c'était l'ancien cirque de Néron, hein, et c'est là, vous le savez, que Saint-Pierre, hein, le premier pape, a été martyrisé, hein, en étant crucifié la tête en bas. Bon. La colonnade du Bernin, hein, que vous connaissez tous, sur la place Saint-Pierre, hein, cette fameuse colonnade, hein, magnifique, symbolise, hein, en fait, le cirque de Néron. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a mis? Au milieu, on a mis une obélisque qui était déjà là depuis l'époque romaine, hein, qui est peut-être originaire d'Héliopolis, hein, la ville du soleil, hein, en Égypte. Le pylône du temple de Ré, qui se trouve là, c'est l'obélisque qui s'y trouve, et donc qui nous ramène à Amenabat II, 19e siècle avant notre ère, donc on est là dans les tréfonds de l'histoire. L'obélisque, vous savez, dans la mythologie égyptienne, dans la symbolique, représente une raie de lumière. C'est un symbole de la raie de la lumière, c'est-à-dire de la puissance éclairante ou illuminante du soleil. Et sur cet obélisque, donc, l'empereur Auguste l'a fait transporter de Alexandrie jusqu'à Rome en 37 avant notre ère, et c'est Caligula qui va la mettre au milieu du cirque dit plus tard de Néron, sur la fameuse colline du Vatican. À l'assassinat de Jules César, donc évidemment avant le règne de Caligula, on va mettre dans une sphère en bronze au sommet de cet obélisque les cendres de Jules César. C'est une sphère en bronze qui aujourd'hui est tombée, bien sûr, et qui se trouve conservée au musée du Capitole à Rome. Je vous invite, si vous avez l'occasion de le voir, c'est dans les salles du rez-de-chaussée, c'est tout à fait impressionnant. Donc c'est là-dedans qu'on aurait mis les cendres donc, de Jules César, vous savez, César donc, qui a été assassiné en voulant devenir donc, roi à Rome. Et donc, ensuite, eh bien, sous le pape Sixte V, 16e siècle, 1521-1590, ce pape fait inscrire une citation en latin qui est la suivante. Christ, le Christ, alors il faudrait que je retrouve exactement, donc Christus defendat, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus ab omni malo pleben suam defendat. Ça c'est la dernière insertion qui est gravée en bas de cet obélisque, donc sous Sixte Quint au XVIe siècle. Je répète, Christus ab omni malo pleben suam defendat. Que le Christ protège son peuple du mal. Et en fait, de façon cryptée, cela représente les initiales, donc, quand on évidemment arrive à les distinguer, A-O-M-P-S. Et A-O-M-P-S, donc selon certaines sources, encore une fois, est-ce la vérité, je l'ignore, mais je trouve troublant quand même, signifie Anticus Ordo Mysticus Prioratus Sionis, c'est-à-dire l'ordre ancien et mystique, donc du prieuré de Sion. A-O-M-P-S. Prioritus Sionis. Donc, c'est quand même assez troublant, en effet, qu'un pape du XVIe siècle ait fait inscrire, en effet, cette devise en plein cœur, comment dire, du centre du pouvoir de l'Église catholique de l'époque. Et vous imaginez bien ce que représentait la toute-puissante Église catholique au XVIe siècle sous Sixte Quint à Rome. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Je ne cherche pas à en déduire quoi que ce soit, je dis simplement que certaines sources indiquent qu'en effet, il s'agit de cette, comment dire, il s'agirait de cette devise. Pourquoi a-t-elle été mise là? Je l'ignore. Troisième aspect, avant de conclure, c'est évidemment, ça nous ramène aux Mérovingiens. Et ça nous ramène à une petite église pas connue, qui s'appelle l'église de Saint-Romain. Saint-Romain à Sèvres. Vous savez, Sèvres, cette ville de la banlieue parisienne où se trouve la merveilleuse, comment dire, faïencerie de Sèvres, le fameux musée de la faïencerie. Eh bien, à Sèvres, quand vous allez dans le vieux Sèvres, je vous recommande d'y aller, c'est très facile d'y aller quand on est à Paris, il suffit de prendre le tramway, enfin vraiment c'est très facile. Et vous allez voir l'église Saint-Romain quand elle est ouverte. Dans cette église qui a été remaniée plein de fois, où il y a beaucoup de choses à voir, très belle église, il y a une plaque qui explique qu'elle a été fondée en 675 de notre ère, 7e siècle, par Dagobert II. Alors là, on se demande effectivement pourquoi, sachant que c'est Dagobert II peu de temps avant son règne, puisque ses dates sont 676-679. Et dans cette église, eh bien, il y a un vitrail qui, quand on le regarde d'une certaine manière, en effet, représente les fameuses lettres P et S. effectivement, comme prioré de Sion, ou priori, ce serait plutôt du latin à ce niveau-là, prioratus sionis. Là aussi, mystère total, que fait également une toile gigantesque que j'ai mise d'ailleurs, parce que je trouve que c'est une énigme intéressante, et à toute personne s'intéressant à l'histoire, j'aime à mettre des questions comme ça sur ma propre page web, que comme vous le connaissez s'appelle olivierburette.org, facile à trouver, hein, olivierburette.org, d'une toile de Flandrin du 19e siècle, hein, un peintre bien pompier, hein, qui représente tout simplement un épisode imaginaire de Jeanne d'Arc, hein, qui, au XVe siècle, serait entré dans cette église pour s'y recueillir un instant avant de tenter de libérer Paris, comme vous le savez, d'être hélas livré aux Britanniques, aux Anglais qui l'ont brûlé à Rouen, hein, quelques temps plus tard, comme vous connaissez cette histoire. Bien des choses curieuses, bien des choses curieuses, bien des clins d'œil, et là on est très loin de Plantard, on est très loin de l'histoire de Rennes-le-Château, on est très loin de tout cet imbroglio, on est dans des, ce que moi j'aime à dire, des faits patents, bon, pas évidemment la présence de Jeanne d'Arc bizarre, expliqué là, mais que ce soit cet obélisque dont je viens de parler, que ce soit d'attribuer la fondation de l'église de Saint-Romain à Sèvres, une petite chapelle quand même, à Dagobert II, les lettres PES sur un vitrail, on a là quand même beaucoup de signes, un peu comme si cette connaissance parallèle, au travers des millénaires de l'histoire, hein, de l'histoire de l'Occident, depuis 2000 ans, eh bien, on avait cherché nous essayer de nous en communiquer un élément. Bien sûr, il y a la dimension aussi rosicrucienne. Je n'y reviens pas parce que là, c'est une histoire beaucoup trop longue qui demanderait procéder une émission entière. Mais on sait aussi que l'ordre mystique de la Rose-Croix, qui est bien antérieur à la franc-maçonnerie, par exemple, hein, est aussi une structure, en effet, dépositaire, dépositrice, en tout cas, probablement, d'un certain nombre de choses, de connaissances historiques parallèles que nous ne maîtrisons pas ou qui sont cachées. Elles ne sont pas dissimulées, mais il faut peut-être un certain exercice pour s'y intéresser et arriver à les voir. Et puis pour terminer, évidemment, comment ne pas évoquer le dernier artefact qui lui existe aussi. Bon, d'une part, on voit bien Langdon et Sophie Neveu visiter la fameuse église du Temple à Londres. Je vous recommande de visiter ce quartier extraordinaire de Temple Street, hein, qui se trouve pas très loin, de la cathédrale Saint-Paul au bord de la Tamise à Londres, qui est un quartier du Temple entièrement, préservé, à la différence de Paris où tu as été éliminé, détruit, hein, à la Révolution. Hein, et bien là, pas du tout. Tout cela a été préservé et il y a cette église circulaire, une des très rares que l'on peut voir, où se trouvent les restes des chevaliers de l'ordre du Temple qui s'étaient fait inhumer là. Je vous recommande d'aller voir Temple Church à Londres, je crois que c'est un lieu vraiment à visiter. Et l'autre lieu, bien sûr, c'est la fameuse Roslyn Chapel, située en Écosse, construite de 1440 en 1486. Effectivement, on est très loin là des confins historiques qu'on a évoqués tout à l'heure, fin du 15e siècle. Mais cette église, un peu comme cette chapelle, un peu comme un témoignage en fait de tout ce qu'on a évoqué, est recouverte de symboles ésotériques. Pourquoi ? On n'en sait rien, elle est en pleine rénovation à l'heure actuelle, paraît-il, hein. Mais vraiment, c'est un lieu à voir, et c'est là que, d'ailleurs, Ron Howard termine son film, hein. En imaginant, évidemment, Langdon et Sophie Neveu trouver ou retrouver l'artefact, hein, et c'est-à-dire les restes de Marie-Madeleine, et la preuve, hein, de cette histoire parallèle antidogmatique, si on peut dire, hein. Mais ce qu'ils comprennent, c'est qu'en fait, ils ne trouveront jamais rien, parce que comme je vous le disais au début de cette émission, tout cela est du domaine profond de ce qu'on appelle la foi, ce qui n'est pas nécessairement la croyance, hein, mais qui est en tout cas peut-être une forme de révélation que l'on peut avoir, hein, à partir du moment où on s'intéresse à une question et où justement les signes historiques, hein, que je vous ai évoqués tout à l'heure finissent par vous apparaître comme une évidence. On entre alors dans la constatation, hein, et non plus dans une croyance, comment dire, bizarroïde, hein, mais dans une constatation, tout simplement, que, eh bien, un certain nombre de choses, comment dire, qui nous sont cachées parce qu'elles nous sont cachées, non pas par des sociétés secrètes, elles nous sont cachées tout simplement parce que nous ne les voyons pas. Parce que parfois, eh bien, les choses apparaissent de façon évidente, on les a sous le nez et on ne les voit pas parce que, bah, tout simplement, tout un tas de raisons liées à notre époque font qu'on est aveugle, hein, tout simplement. Et c'est peut-être ça aussi, la quête de la sagesse, que d'arriver à se nettoyer, comment dire, les yeux pour voir un certain nombre de choses. Quelques livres pour terminer, hein, puisque je vais dépasser déjà de presque 3 minutes, le temps imparti. Bon, Les Templiers sont parmi nous, de Gérard de Sède, ça fait quand même un point sur tout ça, c'est à lire et à relire, et à faire le tri, bien sûr, sur tout cela. Il y a L'énigme sacrée, que j'ai évoqué tout à l'heure, évidemment, hein, des auteurs qu'on a évoqués. Il y a l'enquête sur le Da Vinci Code, hein, qu'on trouve très facilement en poche. Et puis ce livre que j'ai relu avec beaucoup d'intérêt, on l'a présenté comme un livre vraiment iconoclaste sur ça, disant que on avait voulu, comment dire, briser le rêve ou pas. Or, il s'agit du bouquin écrit par Alexandre Adler, qu'on apprécie ou non, qui s'appelle Société secrète, et qui a fait un travail extrêmement fouillé sur toute cette histoire. Et je vous en recommande la lecture parce que il a fait, en fait, il laisse le choix vraiment, plutôt que de démonter quoi que ce soit, il laisse le choix au lecteur de se faire sa propre idée. Et je crois que c'est extrêmement important dans ce type de sujet parce que ce sont des sujets passionnants et qui, je crois que quand on est rentré, je crois que toutes les personnes qui sont intéressées à ça, qui sont bien plus connues que moi, toute cette histoire, quand on entre dans cette, comment dire, dans ces centres d'intérêt-là, c'est tellement passionnant et extraordinaire, c'est tellement un tiroir que on n'en sort plus, tellement c'est passionnant et on n'a qu'une envie, c'est de continuer à s'y intéresser pour progresser, essayer de comprendre effectivement tout cela, parce que quelque part, il y a certainement quand même quelque chose à retirer et d'immensément bénéfique, certainement pour notre monde. Je vous remercie, c'était Histoire du soir, la 12e numéro du nom. La prochaine de nos émissions sera donc consacrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux Mérovingiens et à leur mystère, bien sûr, et elle aura lieu donc tout simplement le jeudi, donc 23 février. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Thank you.